Chapitre 6. Trois jours plus tard, nous n'avions reçu aucune lettre de mon cousin, aussi attendions-nous son retour d'une heure à l'autre. Je travaillais le soir à la lumière, car déjà la nuit venait tôt. Manette, fraîche et calme, assoupie dans une pose gracieuse, les bras et le cou nus, eût été prise dans l'étang mythologique pour une nymphe surprise par le sommeil. Je philosophais en me demandant quel serait son sort. Il m'intéressait autant que celui d'un empire, et jamais je n'avais été plus convaincu, mes affections étant en jeu, que chaque individualité est tout un peuple. Et comment le conduire au bonheur, ce peuple? Le même chemin se présente toujours à l'imagination, puisqu'il est tracé par une loi nécessaire qui, à l'inverse des lois conçues par les hommes, ne bougera jamais. Ces réflexions oiseuses m'ennuyaient, et si je les écartais, c'était pour tomber dans l'inquiétude en cherchant à découvrir une raison plausible au départ subit de Geoffroy. Avec l'air chaud, parfumé, des papillons aux ailes diaprées de blanc pénétraient en multitude par la fenêtre ouverte et un gros sphinx, s'abattant en bourdonnant sur la table, réveilla Manette. « J'ai dormi, je crois, ma cousine, » dit-elle en s'étirant comme un jeune chat. « Je le crois aussi. » « Excusez-moi, je deviens vraiment mal élevée. 9 heures, père ne reviendra pas ce soir. » Je ne le pensais pas, mais comme il n'écrit pas, je crois que nous le verrons incessamment. Je n'avais pas terminé ma phrase que Manette s'écriait joyeusement. « Oui, le voilà, j'entends une voiture. » C'était bien Geoffroy qui revenait, animé et soucieux à la fois, surtout soucieux si mes yeux ne me trompaient pas. « Si vite de retour, cher père !» J'ai profité de la voiture de Varès. Il m'a amené avec lui jusqu'à Langeais, où il s'est arrêté. « Et vous avez pu régler promptement vos affaires. Vous ne repartirez pas demain ?» demanda Manette en riant. « Non, je ne repartirai pas demain, » dit Geoffroy sans répondre à la première question. « Puisque Monsieur Varès s'est arrêté à Langeais, il ne viendra pas ici, n'est-ce pas? Dieu sait si j'en suis contente !» C'est chanter victoire trop tôt. Varès passera demain devant Saint-Maur et couchera au Bourdon. En voyant la moue de sa fille, qui détestait ses arrivées imprévues, il sourit et lui donna une petite tape affectueuse. Combien de temps restera-t-il? Il arrivera pour dîner et partira dans l'après-midi du lendemain. Tu vois que ce ne sera pas long. Manette, quoique soulagée par la perspective d'une très courte apparition de M. Varès, ne put retenir l'expression de sa mauvaise humeur. « Les hommes n'entrent pas dans le détail d'une maison. Ils ignorent les difficultés d'une réception quand le garde-manger est vide et quand le service est si limité. »« Bah, tu sauras bien t'en tirer et tu as constaté toi-même que Varès est l'amabilité même. » « Son amabilité ne nous donnera pas des côtelettes, » dit-elle en reprenant subitement sa gaieté. Le lendemain matin, lorsque je passai devant la porte de Geoffroy, qu'il avait ouverte pour me guetter, il me fit signe d'entrer. Faveur rare de pénétrer dans son cabinet, pièce tenue dans un ordre sévère. Des cartons commodes pleins de dossiers garnissaient les murs, ils eussent donné à l'appartement l'aspect d'une vulgaire étude, sans quelques meubles de bon goût et sans la vue paisible du jardin rococo. Asseyez-vous, cher ami, j'ai hâte de causer avec vous et de solliciter un conseil. Au mot de conseil, je fis la grimace. Tant pis. Attendez avant de protester. Figurez-vous que depuis son passage ici, Varès insiste pour avoir le manuscrit dont je lui ai parlé. « Mais je crois me souvenir que vous ne vous reconnaissiez pas le droit de le lui donner et que vous avez refusé de la façon la plus catégorique. » Un premier refus ne paraît pas un obstacle insurmontable à un journaliste, surtout à un journaliste aussi féru de son journal, dit-il en riant. « Varès est tenace, allez !»« Eh bien ?»« Eh bien, il me fait de telles propositions que, en réfléchissant, je me demande si j'aurais tort de lui céder. » « Quelle proposition ?» Il m'expliqua que son directeur lui offrait 40 000 francs pour le droit de publier les lettres dans son journal si, après lecture, elle lui paraissait assurée d'un grand succès. Un éditeur, pressenti par lui, achèterait fort cher le manuscrit, à moins que Geoffroy ne préférât conserver des droits d'auteur sur la vente du volume ou en céder la complète propriété à M. Varèse, qui s'arrangerait ensuite lui-même avec un éditeur. Dans ce dernier cas, celui que je préfère, Varèse me verserait 80 000 francs. 80 000 francs, et il ne connaît pas les lettres ? Ces propositions sont naturellement conditionnelles et il sait ce dont il s'agit. Il examinera demain le manuscrit, après quoi il fera des propositions fermes et j'aurai à me décider. Que pensez-vous de cette affaire ? Votre opinion m'est précieuse. Je suis trop ébaubi pour répondre ainsi au pied levé, dis-je. Laissez-moi le temps de réfléchir. Encore faut-il que vous envisagiez clairement la question. Je commence par vous rappeler que, un jour ou l'autre, les lettres seront connues, puisque déposées à la Bibliothèque nationale, des chercheurs les liront. C'est juste, mais vous sembliez tellement éloigné de l'idée actuelle. J'ai réfléchi, et les raisonnements de Varèse m'ont paru très sensés. Et pourtant, vous hésitez ? J'aurais préféré m'abstenir, je l'avoue, mais ce sont de simples répugnances qui doivent céder devant les nécessités du jour. L'avenir de Manette dépend de ma décision et par la réalisation de cette affaire, il est assuré. Avec mon petit avoir, si je disparaissais en la laissant seule, elle pourrait vivre et conserver sa vieille maison. Ébloui par cette perspective, je voyais trouble. Geoffroy, il est vrai, avait paru naguère tellement affirmatif que je croyais les motifs de son refus indiscutables, mais la question ne me paraissait plus claire, et d'ailleurs, ma confiance dans la délicatesse de mon cousin était si absolue que j'entrais dans ses vues nouvelles. Toutefois, je lui dis « Vous ne craignez pas d'avoir des regrets ?»« Je vous le répète, je préférerais m'abstenir, et seul, je m'abstiendrai. » Mais la question se complique de mes devoirs paternels. Ces lettres ont vraiment un intérêt si extraordinaire, un intérêt très grand à plus d'un point de vue. Il m'apprit enfin qu'elles contenaient toute une histoire d'amour, que les faits s'étaient passés entre une princesse de famille royale et l'oncle du duc Z. Vous n'avez jamais pensé à renvoyer les lettres aux descendants de cette famille royale ? Non, le duc qui me les avait confiées pour les classer s'y serait formellement opposé. Ma curiosité s'excitait fortement. Et pourquoi ? Le savez-vous ? Très vaguement, le duc ne m'a pas pris pour confident. Cependant, j'ai quelques raisons de croire qu'il détestait cordialement la famille dont nous parlons. Il est mort avant de me dicter ses intentions. Au reste, il avait, je crois, un peu oublié le manuscrit que je possédais depuis longtemps. Je me rappelle qu'il parla, un jour, de le léguer à la Bibliothèque nationale. C'est pourquoi, avant les propositions de Varèse, je prenais les décisions que vous savez. « Mais, dis-je, la famille de ce duc, pouvez-vous agir sans son assentiment ?» Le duc n'avait pas d'héritier direct. Le chef de la famille est un parent éloigné, à qui, en apprenant la mort de son cousin, j'ai immédiatement écrit en 1915. Il m'a répondu qu'il était tout à la guerre, que les vieilles paperasses ne l'intéressaient jamais et que je pouvais les jeter au feu ou en disposer à mon gré. Alors, vous êtes libre ? Pourquoi hésitez-vous ? Le point douteux, seule cause de mes hésitations, est l'opinion inconnue de l'ancien propriétaire. Oh, pour cela, mon cher, je n'admets pas qu'on sacrifie les vivants aux disparus. Vous aimait-il ? Oui, beaucoup. Eh bien, il serait probablement le premier à vous conseiller d'accepter. N'est-ce pas votre avis ? Je n'ai aucun avis sur ce point, mais les circonstances sont impérieuses. On me propose un magnifique rubis pour ma fille, je crois vraiment, après avoir tout pesé, que je puis accepter. Je le croyais également, les lettres dataient de 70 ans, et de bien plus loin encore, si on jugeait non d'après les années, mais d'après les événements qui avaient balayé l'ancien monde. Elles étaient, me répéta Geoffroy, très intimes, amoureuses, spirituelles, et pas plus scandaleuses que tant de correspondances publiées tous les jours. « Je suis content de votre approbation, me dit mon cousin. Si Varèse, après examen du manuscrit, maintient ses propositions, j'accepterai. »« Vous en parlerez à Manette ?» Non, elle est trop jeune, trop inexpérimentée pour porter un jugement sur la question. Je lui dirai simplement que j'ai réussi dans une excellente affaire. » Cette réponse me contraria, elle nous donnait l'air de conspirer. Mais sur la réflexion que je hasardais, Geoffroy me dit qu'il évitait de parler des questions financières avec sa fille, qui les écartait toujours, ou répondait étourdiment que l'avenir ne l'inquiétait pas, et que, en face de difficultés, elle saurait leur tenir tête. La pauvre enfant parle de cette manière, un peu parce qu'elle exprime sa pensée véritable, beaucoup plus encore pour calmer mes craintes. C'est vrai, je l'avais constaté plus d'une fois, et je répondis « Vous avez raison, j'ai remarqué parfois son enfantillage en parlant des questions d'argent. » « Est-ce bien de l'enfantillage ? » dit-il vivement, car il voyait déjà dans ce mot une critique sur sa chère Manette, et alors il ne regardait pas à se contredire lui-même. « Mettons jeunesse, si vous voulez. » Quoi qu'il en soit, malgré des petits ennuis et des tiraillements, elle n'a pas encore souffert sérieusement. Tant que je suis là, notre gêne est en quelque sorte relative, du moins elle l'était, mais à présent, avec les difficultés de la vie... En pensant au délabrement de la maison, aux restrictions de la nourriture, aux cent détails de l'intérieur que la mère de Geoffroy s'était vue, faute d'argent, obligée de négliger, je jugeais que le relatif dont parlait mon cousin était bel et bien, depuis longtemps, une réalité dont Manette avait senti la rigueur du jour où le gouvernement de la maison lui était échu. « À quoi pensez-vous donc, Pauline ?»« Évidemment, elle n'a jamais manqué du nécessaire. » « Je vous comprends, mais vous savez que son heureux caractère l'a aidé. Si l'affaire se conclut, le revenu des 80 000 francs tempérera les difficultés qui ont grandi. Il les tempérera en attendant autre chose. C'est clair et tous vos raisonnements sont empreints d'un bon sens indéniable. » Je me retirai chez moi pour savourer les espoirs de Geoffroy. L'avenir de sa fille allait être assuré par cette aubaine qu'il appelait si justement un magnifique rubis, et bien que l'affaire ne fût pas encore terminée, je ne voulais pas douter de sa conclusion. L'esprit s'habitue si vite à l'idée qui promet du bonheur qu'il ne discerne plus tous les éléments de la situation, et je me sentis plus heureuse que je ne l'avais été depuis de longues années. À 5 heures, M. Varès nous arriva, aimable, disert, enchanté de l'Angers. La délicieuse maison de Rabelais, si on pouvait l'emporter, je connais quelqu'un qui ne se ferait pas prier. Il nous parla du château en homme de goût très averti. Aucun détail de l'intérieur ne lui avait échappé. Il ne tarissait pas sur son impression de saisissement en pénétrant dans la salle imposante où fut célébré le mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne. Beaucoup de goût a présidé à l'arrangement de cette salle, depuis les tentures en grosse toile de Bretagne jusqu'au grand chardon qui se dresse sur une table dans un vase de forme ancienne. Il passa à un autre thème, car il n'appuyait jamais sur un sujet. Avec sa conversation mobile, si je puis dire, fantaisiste et instructive, il nous eut facilement retenus à table du soir à l'aube. Après le dîner, il se retira aussitôt dans le cabinet de Geoffroy, où il demeura jusqu'à 2 heures de la nuit. Je ne dormais pas, me demandant avec anxiété si l'affaire aboutirait, si l'avenir de Manette allait subir une métamorphose. Avenir toujours modeste certainement, mais délivré d'angoisse. À cette pensée, j'étais transporté de joie. Le nom de M. Kerdulaine n'avait pas été prononcé dans ma conversation avec Geoffroy, mais je voyais poindre la figure du jeune officier derrière chaque parole. Peut-être bien inutilement, à mon sens, car lorsque je méditais seul, sans influence sur mon jugement, je ne doutais plus des sentiments du capitaine pour Mademoiselle de Falibert. De bonne heure, malgré une nuit sans sommeil, je commençai ma promenade quotidienne dans l'avenue où me rejoignirent le directeur et M. Etel. Geoffroy me dit aussitôt « Pauline, l'affaire dont nous avons parlé ensemble est réglée. M. Varès prend le manuscrit. » « Ah, Mme d'Aiglis est au courant ?»« Pas complètement, répondis-je, car je ne connais pas ces fameuses lettres dont vous êtes, je le vois, très content. » Ce n'est pas assez dire, je suis dans l'enthousiasme. Cette correspondance est d'un intérêt extrême, tant par l'intrigue vécue que par les jugements d'un esprit pénétrant sur les personnages en vue de l'époque. Le Second Empire ? Oui, le Second Empire. Vous nommerez les auteurs ou vous vous bornerez à des initiales ? Je les nommerai certainement, le recul est assez grand pour qu'on se le permette. Où serait l'intérêt alors ? Du reste, sans passage des lettres, à moins de les dénaturer, révélerait les noms. La publication est appelée au plus vif succès et je suis bien reconnaissant à Etel de me donner la primeur. Dites la propriété. Primeur et propriété, quelle trouvaille ! Je crains même qu'Etel ne fasse pas une excellente affaire avec moi. Je me tiens pour entièrement satisfait, répondit Geoffroy avec une certaine vivacité. Cependant, mieux eût valu, je crois, pour vos intérêts, traiter vous-même avec l'éditeur, non à forfait, mais en conservant sur la vente du volume vos droits d'auteur, ou, pour parler plus exactement, de propriétaire. Il est encore temps, Etel, il sera toujours temps. Si vous changez d'avis, n'hésitez pas à me le dire. Geoffroy répondit qu'il préférait tenir sans attendre, que, nullement ambitieux, la fortune le favorisait suffisamment par le traité offert et accepté. « Et, qui sait, vous vous lancez et nous sommes peut-être dans l'illusion. »« Oh, je ne suis nullement inquiet, mes fonds me rentreront certainement. Mais je ne voudrais pas spéculer sur votre désintéressement. » Laissons cela, si l'affaire est un gros succès pour vous, je m'en réjouirai, c'est tout. Monsieur Varès lui tendit la main. J'aime votre caractère, Etel. Enfin, sans attendre, vous serez relativement tranquillisé sur l'avenir de votre jeune et charmante fille. Je ne dis pas sur son sort, qui dépend du mari futur. Il se trouvera, il sera jeune et bien, répondit Geoffroy en me lançant un coup d'œil sévère. Il est certain que de la Fade, il ne restait même pas un atome, et le coup d'œil de Geoffroy était inutile pour m'en convaincre. Seulement, c'est une chose bien singulière que, en les écoutant, l'affaire m'apparaissait sous un jour douteux et désagréable. Pourquoi ? Rien n'avait changé depuis la veille, si ce n'est que le fait s'accomplissait et que Geoffroy parlait en homme décidé. Mais son refus d'accepter la possibilité d'un gain plus considérable me laissait une impression bizarre qui frôlait la souffrance. Quelques jours après le départ de M. Varès, Geoffroy recevait le chèque qui complétait la somme déjà versée. Le directeur écrivait que l'éditeur partageait son avis sur le succès certain d'une publication qui serait sensationnelle. « Je me suis arrangé avec lui dans des conditions fort avantageuses », ajoutait-il. « Tant mieux, me dit Geoffroy, je suis ainsi sans inquiétude sur la suite en ce qui concerne les intérêts de Varès. » « S'il n'avait pas cru réussir, il se serait abstenu, » répondis-je. « Vous ne le connaissez pas. Pour assurer du relief à son journal, il consentirait facilement à des sacrifices. Il n'est pas, je vous l'affirme, un homme d'argent. » Geoffroy a pris devant moi à sa fille l'heureux résultat de l'affaire qu'il avait appelée à Paris. « Contrairement à mes habitudes, j'ai réussi. Je mets donc dans ta corbeille future un rubis de 80 000 francs. Cher enfant, j'en suis si heureux. » Les jolis yeux bleus de Manette exprimaient tant d'étonnement que nous nous mîmes à rire, son père et moi, mais peut-être cachions-nous ainsi notre émotion. La première surprise dominée, Manette dit lentement « Un rubis de 80 000 francs dans ma corbeille ? Mais, cher père, si vous avez été heureux en affaires, il faut que vous en profitiez personnellement. » N'est-ce pas pour moi la meilleure manière d'en profiter, te voir doté et, mieux encore, savoir que ton avenir est au moins modestement assuré, voilà ma joie. Les yeux de Manette se remplirent de larmes, elle embrassa tendrement son père en s'écriant « Que vous êtes bon et que je suis heureuse de me sentir si aimée. Votre affection suffit bien à mon bonheur. » « Je te connais, chérie, mais elle ne te suffira pas toujours. » La vie marche et nos différents besoins avec elle. C'est là une vérité rudimentaire, tu le sais bien. Vous saviez, ma cousine ? Je savais. Et comment avez-vous gagné une telle somme ? 80 000 francs ? C'est un beau denier. Les affaires d'argent ne regardent pas les petites filles, répondit gaiement Geoffroy. Jouis du résultat sans t'occuper du reste. « Il est vrai que les finances et moi, » dit-elle avec une grimace amusante. Pauvre petite, elle ne connaissait des finances que les tiraillements intérieurs, les mesquines économies si incompatibles avec le fond de son caractère, mais qu'elle savait si bien envelopper du charme de sa gaieté. « Et pourtant, reprit-elle, beaucoup de gens de nos jours regrettent que les jeunes filles soient tenues à l'écart des questions administratives. » « Elles s'y mettront plus tard, dis-je. Elles ont bien le temps de vieillir. » Du reste, la tenue un peu difficile d'une maison apprend beaucoup, j'en sais quelque chose. Elle causa longuement avec son père et fit tant de projets que Geoffroy s'appliqua à calmer son imagination. « C'est peu, mignonne, 4 000 francs de rentes en plus. C'est beaucoup pour nous. » « Les rouages grinceront certainement un peu moins, » répondit son père en nous quittant.